Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo toutes les deux semaines. Je suis Patrick Béja et avant de nous lancer, je voudrais vous remercier pour les commentaires très positifs qu'on a eus sur le dernier épisode. En général, les auditeurs sont plutôt sympathiques avec cette émission et vous avez particulièrement apprécié le dernier. Et je voulais aussi dire que on fait le premier épisode depuis la nouvelle maison. Vous savez que j'ai déménagé à la campagne. Mais vraiment, quand je dis la campagne, c'est la campagne de chez la campagne, mais on a quand même la fibre, mais c'est ce qui vient après la fibre qui est pas 100% sûr, c'est-à-dire le wifi, tout ça. Donc si jamais il y a des interruptions, j'espère que vous serez, je dis les wifi, mais maintenant que j'ai une vie de campagnard, il y a des sautes d'électricité, des trucs comme ça, et j'ai pas encore acheté d'onduleur, donc il faut que je mette tout ça en place. Donc cet épisode est un tout petit peu risqué, mais on s'en fout, nous on aime vivre dangereusement, on aime prendre des risques. Et donc, on va quand même tenter de faire l'épisode comme si de rien n'était. Je suis sûr que ça se passera bien. Je vais d'abord de dire bienvenue dans l'émission à J.K. J'ai eu un instant de I will welcome to the show J.K. Loret.
Je ne me souviens plus de mon prénom.
Non, c'était l'anglais, tu vois. Ouais. Je fais trop l'aller-retour entre le français et l'anglais.
Là, c'est bien pas vrai parce que tu testes des concepts d'enregistrement. Bientôt, tu t'enregistreras au milieu d'une forêt avec des ours. tu peux faire un podcaster versus wild, un truc comme ça, tu vois.
Mais tu sais qu'il y a la 4G qui marche pas mal ici. Donc, limite, ça serait possible, quoi.
Ouais, tandis que nous, en 4G, dès que tu sors de Paris, bon, j'exagère un tout petit peu, mais. Mais j'apprends encore. Là où t'es, vous êtes quand même bien lotis en Finlande.
C'est ça, écoute, Finlande, oui, c'est en Finlande. Figure-toi que on a en fait la raison pour laquelle on a eu un réseau fibré ici, c'est que il y a eu une initiative d'un ingénieur informatique qui habitait dans un village où il avait pas trop la 4G et donc il a voulu une bonne connexion internet. Il a réuni plein de gens, il a fait un truc d'initiative. Un réseau d'initiatives, je sais pas comment on dit ça, commune populaire, je sais pas quoi. Enfin, c'est une société quand même. Ouais, mais ouais. Il a fait creuser les tranchées, il achète la bande passante à la société OFAI d'à côté, etc. Bon, ça a coûté cher, hein. Ça a coûté plusieurs milliers d'euros par maison à fibrer, donc, mais ça vaut le coup, ouais. Tu vois. Du coup, ta maison est hyper vivable parce que sans internet, je te raconte pas.
Tu m'étonnes.
Mais d'accord. Oui, donc c'est moi je suis complètement, tu vois, la question de l'infrastructure, c'est peut-être un sujet pour le rendez-vous tech, mais la question de l'infrastructure est tellement importante et il y a des moyens de faciliter ça et c'est ce qu'ils ont fait en Finlande, donc forcément le résultat est là, quoi.
Excellent.
Mais oui, mais c'est pas le rendez-vous tech et
non,
donc
c'est pas
rendez-vous tech. On va parler de jeux vidéo et pour nous aider à parler notamment de Far Cry 5 et de plein d'autres choses aussi, on a Florian Velter qui nous rejoint, qui est comme je le disais avant qu'on commence à enregistrer, un pigiste multicasquette. Tu es notamment chez Gamekult, chez JV et voilà et d'autres activités aussi. Comment ça va, Florian?
Bah écoute, très bien. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui.
Bah
merci beaucoup pour l'invitation.
De te joindre à nous, ça nous fait plaisir de te recevoir et que tu viennes essuyer les plâtres de ces nouvelles connexions.
Bah oui, c'est un honneur, attends.
Et donc, comme je le disais, on va parler de Far Cry 5 qui vient de sortir. On va aussi parler un peu de Moss, ce jeu PlayStation VR qui est sorti il y a quelques semaines, mais que j'ai eu l'occasion de tester. Il y a également d'autres sujets, plein d'annonces, de trucs qui vont arriver d'ici la rentrée. Il y a des news sur Sea of Thieves, sur No Man's Sky, des changements pour des jeux qui continuent à être suivis. On a des rumeurs sur des trucs qui se passent du côté de chez Ubisoft. Enfin, plein de choses dont on va vous parler. Et je vous propose de commencer immédiatement avec le gros jeu qui est sorti. Il y en a presque un toutes les deux semaines maintenant. Mais le dernier, c'était Far Cry 5. Qui semble faire plutôt les affaires d'Ubisoft, puisque au-delà de sa qualité qui semble avérée, les critiques sont plutôt bonnes, il s'est hyper bien vendu. Il est le plus gros lancement d'un Far Cry chez Ubisoft. On se souvient qu'ils avaient fait que le 3 et le 4 quand même. Avant, c'était chez Crytek, si je ne m'abuse. Et
ils ont commencé à partir du 2, je crois.
Ah oui, je me souvenais pas du 2.
Ils ont édité le 2, je sais pas s'ils l'ont développé le 2.
Ouais, je sais plus. Ah ouais, c'est ça, tu vois que c'est à partir du 2 et même de spin-off un peu nul sur console,
oui. Ouais, ouais, Primal aussi qu'il faut pas oublier, etc. Ah ouais. Oui. Et donc ils
le premier épisode qui a été entre leurs mains, je crois que c'est vraiment le 3 en fait.
Ouais, c'est vrai.
Voilà.
Je crois.
Et donc, ils ont fait donc le plus gros chiffre d'affaires depuis le lancement de la série avec 310 millions de dollars en une semaine, ce qui est quand même pas mal. 50% pardon, je sais plus combien de plus, c'est genre deux fois plus, oui c'est ça, deux fois plus d'exemplaires que sur la première semaine que le 4. Donc, plutôt un succès commercial, on va dire. Est-ce que toi qui l'as, je sais pas si tu as joué JK, mais je sais que Florian t'y a joué.
Moi j'en suis à une poignée d'heures, on va dire, donc j'ai un début d'avis, on va dire, mais je vais essayer de Florian en parler.
Bah donnons d'abord justement la parole à Florian, puisque toi tu l'as bien retourné. Est-ce que succès critique est justifié, est-ce que le succès disons commercial est justifié par une qualité critique?
Déjà pour revenir sur ce que tu as dit sur les critiques, ça a été quand même assez mitigé, en tout cas du côté de la presse française. Je sais pas ce que ça donne du côté de la presse américaine, mais du côté
c'était
de la presse française,
positif,
c'est quand même...
je dirais. C'était pas le jeu de l'année, mais assez positif.
Ouais. Voilà. Bon, du côté de la presse française, ça a été assez partagé. Est-ce que le succès commercial reflète la vraie qualité du jeu? Je suis pas très sûr. Pour tout te dire, moi, ce que je vois dans ce démarrage explosif, c'est surtout, notamment lié au contexte du jeu et à la com
habile.
Habile, peut-être un petit peu, un petit peu bancal de Ubi autour de ce contexte et donc du fameux nouvel ennemi du jeu, donc la secte de l'Eden's Gate, et de ce que ça représentait politiquement, ou de ce que c'était censé représenter en tout cas politiquement, vu que c'était une coïncidence assez étrange avec l'élection de Donald Trump,
bien sûr,
à la Maison Blanche, et de la montée de l'alt-right globalement aux États-Unis. Beaucoup de gens ont vu dans la représentation de la sexe de l'Eden's Gate une réponse à ça.
Ça l'évoque forcément, mais moi j'ai l'impression que justement les premières impressions étaient c'est un doigt pointé vers tout ça et c'est une accusation. Et depuis la sortie, j'ai plutôt l'impression que les gens se disent, ils voulaient changer de contexte et ne plus être, je sais pas, en Thaïlande ou dans Dieu sait quel pays en voie de développement. Et ils ont donc voulu ramener ça aux États-Unis. Et quand t'es aux États-Unis, quel groupe terroriste est-ce que tu peux mettre en place? Un groupe religieux extrémiste, c'est assez cohérent. Et ensuite, la qualité de la narration est peut-être ce qu'elle est, mais j'ai pas l'impression que la question, j'ai limite l'impression que la question de la controverse se pose plus en Europe ou en dehors des États-Unis que aux États-Unis eux-mêmes. Moi, tout ce que j'ai lu, c'était évidemment, ça fait écho à certains trucs qu'on a vus ces dernières années. Mais c'est le truc de, quand tu vas mettre un méchant, c'est un truc complètement cohérent. Et j'ai pas vu de réaction, j'ai pas vu de réaction de scandale ou de scandale artificiel créé par ces mouvances de l'alt-right, etc., pour dire « Oh, regardez, on nous brime, on nous accuse, machin. »
Il y en a eu, hein. Il y en a eu, notamment des réactions sur... C'est que ça date un petit peu aussi, c'est que ça date... Il y a eu des réactions de l'alt-right américaine, de la droite britannique aussi. Il y a une connexion entre les deux. Mais ça remonte un peu. Ça remonte au mois de mai dernier, au moment où les
premiers...
Ah
oui, non, mais ça, c'était la présentation. Je suis d'accord. Oui,
voilà,
mais...
voilà, exactement. Depuis, en effet, depuis que le jeu... En fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis que les gens ont pu mettre les mains sur le jeu, que ce soit à travers les previews, à travers maintenant que le jeu est sorti, à travers les tests, etc., ce qui s'est matérialisé, c'est que Ubisoft a enlevé toutes les billes qu'il pouvait avoir de ce côté-là. C'est-à-dire, on retrouve, vous savez, ce fameux panneau à chaque fois qu'on lance un Assassin ou un Far Cry qui dit que, attention, que c'est un jeu fictif, multiculturel, qui ne représente pas des événements réels, etc. Ubi s'est vraiment remis dans ce sens-là, c'est-à-dire on enlève toute considération politique ou de ce qui pourrait être traduit comme du politique de ce jeu, et du coup, en effet...
Mais t'es sûr qu'il y en avait ? Parce que...
C'est pas sûr qu'il y en avait.
Mais c'est ça, parce que les gens sont partis. Oui, ils ont ajouté un personnage noir sur une affiche du jeu, et il est possible qu'ils aient ajouté des modèles de persos noirs parmi les ou de couleurs en général parmi les gens qui suivent le culte en question. Mais disons que la critique ou le comment dire l'aspect religieux et le culte et l'extrémisme religieux n'a pas été mis au second plan. Et donc, ils n'ont pas non plus...
Et en plus, y a un truc qui est très intéressant dans les quelques interviews qu'il y a eu des développeurs, et notamment de Dan Hay, qui est le directeur créatif. Au-delà, je pense qu'il y a quand même une forme de rétropédalage de la part d'Ubisoft, quand même, qui c'est minime, mais il y a une forme de rétropédalage. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même qu'en effet, il y a des trucs dans Far Cry et dans ce que représente la secte d'Eden's Gate qui sont plus anciens que l'accession de Donald Trump à la Maison Blanche, et qui sont ces trois piliers de la culture américaine, qui sont la liberté, les armes à feu et la religion et la foi. Et ces trois piliers là qui représentent beaucoup, qui représentent des choses importantes pour la société américaine, c'est ce qui sous-tend en fait l'intrigue de Far Cry 5. Et ça, c'est beaucoup plus, ça pose un problème depuis beaucoup plus longtemps que l'accession à la Maison Blanche.
Ouais, c'est la question de la sensibilité de la culture américaine. Mais justement, bon, on va pas résoudre ce problème aujourd'hui. Et moi, j'ai l'impression que le jeu a pas créé de controverses non plus, comme on pouvait peut-être y penser, et qu'il a peut-être fait une demi-marche arrière. Mais il reste quand même assez pas critique, mais enfin assez acerbe dans sa dépiction de ces aspects de la culture américaine. Maintenant, pour parler du jeu lui-même, que ça soit pour les aspects narratifs ou les aspects gameplay, qu'est-ce que t'en as pensé ? T'avais l'air de dire que c'est pas une réussite totale.
Non, alors c'est vraiment, il va falloir vraiment nuancer ce que j'ai à dire, c'est-à-dire que moi j'ai eu des cas en plus, j'ai eu des exemples, etc. Donc les gens qui ont joué à Far Cry, qui aiment le concept de Far Cry et qui ont besoin ou qui ont envie d'avoir un Far Cry tous les ans, etc., vont pas être déçus par celui-là. Mmh. C'est important de le souligner. Maintenant, y a des vrais problèmes, en effet, autour de la narration, autour du gameplay. Le premier que je vois en termes de gameplay, surtout, c'est un problème de densité de l'open world. Mmh. C'est-à-dire que... le Montana, donc ce qu'il faut rappeler, c'est que pour la première fois, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est la première fois quand même que Far Cry se place dans un univers réel. Jusque-là, c'était des nations fictives, même si elles étaient très ressemblantes à des pays existants, mais c'était des nations fictives. Le Montana, c'est pour la première fois un état des États-Unis, donc qui est réel. Donc les développeurs sont allés là-bas pour recréer un open world satisfaisant, ressemblant, etc. Et de ce côté-là, il faut dire que c'est assez chouette. Il y a un vrai côté balade, il y a un vrai côté on retrouve parfois ce côté de se perdre un petit peu dans le Montana, malheureusement.
J'ai l'impression d'ailleurs qu'ils ont poussé un petit peu plus l'immersion. C'est un grand mot pour un Far Cry, mais on n'a pas, par exemple, tu disais, ça reste un Far Cry avec les poncifs du jeu.
Ouais.
Ils ont viré, par contre, les tours à capturer qui te mettent la collection d'icônes sur la carte. Ça, c'est plus comme ça.
Alors,
que ça marche.
Alors oui et non, c'est un des problèmes, j'allais y venir, c'est que en effet ils se sont fait un petit peu, c'est devenu un argument de dire, regardez, on vous a enfin entendu, les tours qui criblaient les cartes d'Assassin's Creed et de Far Cry, qui étaient un peu une marque de fabrique d'Ubisoft, ouais, on les a enlevés. Alors certes ils les ont enlevés, le problème c'est que en fait y a d'autres choses qui les remplacent. C'est-à-dire que dans Far Cry 5, en marchant un petit peu, donc au début, tu vas dire, ah, je vais marcher au pifomètre, voilà, je vais arriver, je vais découvrir. Sauf que très vite, tu te mets à trouver des cartes, notamment dans les bleds que tu visites. Et ces cartes-là, en fait, elles vont te révéler les environs. Et elles vont te révéler les alentours en termes de points d'intérêt, en termes de lieux de chasse, en termes de... Donc, les tours radio ont beau avoir disparu, le rôle, ce rôle de révélateur de la map un petit peu artificiel, lui, est resté.
Mais par contre, les cartes, si je ne me trompe pas, elles sont un petit peu plus limitées que les tours, et surtout, il y a des quêtes qui sont données par des personnages que tu vas rencontrer, qui vont dire « Ah, le vieux Joe qui était derrière la colline, il a un problème avec son puits, est-ce que tu peux aller ?» machin. Donc c'est un petit peu plus organique, mais t'as l'air de dire que c'est pas non plus...
En fait, il y a une vraie progression, c'est-à-dire que au début, les 10 premières heures de jeu vont paraître très très organiques, en effet, parce qu'il y a un espèce de contraste avec les précédents Far Cry, donc on va se dire, en effet... Tiens, on tombe sur un chasseur qui nous dit en effet d'aller voir Michel là-bas au fond de sa cabane,
de sa campagne.
Voilà, voir s'il est toujours vivant parce qu'il avait
Michel
des problèmes
dans sa cabane.
Voilà. En effet, tu vas tomber sur une carte qui va te révéler, c'est vrai, une portion plus congrue que ce que faisaient les tours à l'époque de la carte. Donc au début, t'as une sensation un petit peu de côté organique comme ça. Et puis en fait, tu te rends compte que tu retrouves le côté jeu Ubisoft, c'est-à-dire c'est un jeu à mécanique et tout est très 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 mécanique, c'est-à-dire que ces fameux personnages qui vont te donner des quêtes annexes, etc., en fait tu vas les retrouver toujours aux mêmes endroits, c'est-à-dire quand tu libères un avant-poste, tu vas parler aux PNJ qui vont apparaître à ce moment-là et ils vont te dire ah bah va voir ci, va voir là, il y a une quête par-ci, il y a une quête par-là. Bon, très bien, à chaque fois que tu arrives dans un bled, tu vas toujours avoir une carte qui va te donner un peu les environs. Tu trouves très vite en fait des ficelles. Les ficelles se commencent à se voir assez vite en fait.
Donc c'est le genre de truc qui fait illusion les quelques premières heures et qui au bout d'un moment. Je vais passer à JK du coup et on va revenir vers toi Florian parce qu'il y a encore beaucoup de choses. Est-ce que tu as la même impression du coup mais toi t'es que aux premières heures donc peut-être que ça fonctionne plus pour
toi.
Je sais
pas combien d'heures de jeu j'en suis là. Je suis parti au sud vers Fall's End, c'est un des premiers gros grosses zones que tu vas libérer. Et en fait l'introduction du jeu, mais les 20 premières minutes, je les trouve excellente. Enfin, la mise en scène est top, il y a une tension, tu dis waouh, il y a un truc quoi. Et d'un coup, en fait, c'est-à-dire qu'il y a cette séquence qui est assez linéaire forcément, mais qui est une pure séquence d'action, d'adrénaline qui est très très bien. Et après, d'un coup, le jeu te laisse complètement libre de ce que tu dois faire. Et là, du coup, je me suis senti un peu perdu. Et en même temps, il y avait ce côté open world Ubisoft qui moi finit quand même un peu pas fatigué avec des milliards de pop-up sur la carte, avec des repères visuels partout. Où tu sais que si tu vas là, tu vas là. T'as une quête de chasse, t'as une quête d'attaquer un convoi, etc. Ok. Là, tu sais, j'ai commencé à me dire non, mais j'en ai marre de ces open world. L'année dernière, on a eu Breath of the Wild, on a eu des open world comme ça qui redéfinissaient un peu le concept. Bon, voilà. Donc, je me suis un peu forcé. Et en fait, je pense que j'ai lu quand même pas mal de tests avant d'y jouer, etc. Donc, j'avais fait un peu mon deuil de ce que j'attendais du jeu et ce que Far Cry n'est pas. Donc, effectivement, c'est pas un brûlot politique. C'est pas non plus, a priori, tu me confieras, Florian, c'est plus vraiment un jeu d'infiltration. Dans les précédents, tu pouvais quand même y aller en stealth assez facilement. Tu pouvais facilement vider un camp presque sans te faire repérer. Là, ça marche pas très bien parce que l'IA, apparemment, est un peu pété et te repère ultra, très, très facilement. Et du coup, j'y vais en mode film d'action des années 80. J'arrive, je balance une grenade, je fais des glissades partout, etc. Et je prends vraiment pas mal de plaisir dans les combats. Je trouve que ça reste un bon FPS. Le feeling des armes est bon. C'est assez chouette à jouer. Donc voilà. Donc j'en suis là. Je prends vraiment un plaisir un peu régressif à y jouer, sachant très bien que je sais à peu près le contrat qu'on me propose. J'ai compris que ça restait un de peur d'Ubisoft. Le jeu est effectivement sublime. Visuellement, c'est de toute façon Ubisoft. S'il y a bien quelque chose qu'ils savent faire, c'est techniquement leurs jeux sont vraiment très très classe. Donc voilà. Effectivement, au niveau de l'histoire, c'est pas. Je sens que ça va pas m'emmener très loin. Mais voilà. Donc je vais pas mentir. Je vais pas bouder mon plaisir. Après, de là à dire que je vais y jouer 20 heures, j'en suis pas sûr non plus quoi.
Bah, du coup, ça pose la question du gameplay. Florian, est-ce que là on a un petit peu de rédemption justement, si l'emballage n'est pas à la hauteur des ambitions, est-ce que le cœur du truc, ce gameplay émergent qu'on a toujours dans Far Cry où tu t'allumes un feu quelque part, ça se propage et puis t'as un cougar qui vient attaquer quelqu'un et il y a tout cet aspect aussi de compagnons que tu peux avoir qui sont des sortes d'IA qui vont t'accompagner et d'ailleurs on peut faire le jeu en coop si je ne m'abuse, c'est possible aussi. Enfin, tous ces aspects mécaniques, est-ce que là quand même il y a de quoi prendre son pied?
Alors, pour le côté émergent du gameplay, c'est une question qui est souvent revenue et c'est quelque chose qui plaisait vachement aux gens de voir un petit peu l'imprévisibilité du monde ouvert. Elle y est même carrément, elle y est même trop en fait. C'est presque à l'excès. On revient à ce que je disais tout à l'heure sur la densité de l'open world, c'est-à-dire que il y a des moments où tu aimerais pouvoir être seul un peu dans le Montana, parce que c'est vraiment un problème. Il y a des jeux qui n'arrivent pas à remplir leur open world. Il y a des jeux qui pour lesquels c'est trop vide, c'est pas intéressant. Là, on a quand même un open world de nature qui est très bien fichu et où on aimerait pouvoir se perdre. Le problème, c'est que, et ça arrive un petit peu au début du jeu, comme je disais tout à l'heure, mais il y a un moment où en fait ça devient où le parc d'attractions commence à avoir trop d'attractions au mètre carré, quoi.
Et donc, on revient après une coupure d'électricité, comme quoi, voilà, c'est comme ça que ça marche, il va vraiment falloir que je mette les onduleurs partout. Tu disais, le parc d'attractions, du coup, ça devient... Il y a trop d'attractions, quoi. Dès que tu tournes la tête, il y a un truc qui se passe.
Ouais, il y a vraiment beaucoup trop d'activités. Et quand je dis d'activités, c'est des quêtes, etc., mais aussi d'activités dans le sens d'activités humaines et animales au mètre carré, quoi. Il y a vraiment beaucoup trop de choses qui se passent. Et d'ailleurs, moi, je conseillerais aux joueurs qui souhaitent au maximum profiter d'un petit peu d'immersion, etc., parce que c'est possible de le faire, d'enlever toute l'interface, ou d'enlever en tout cas une bonne partie de l'interface du jeu, histoire d'alléger déjà un petit peu cette impression de surcharge, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a ce côté, comme disait JK tout à l'heure, on a la carte qui est clafie d'activités partout, quoi. Donc ça pose un petit peu problème, ça use un petit peu aussi parce que ça réclame la carte est grande, elle réclame souvent pas mal de déplacements et là où ça pourrait être un plaisir de découverte, etc., et ça l'est un petit peu au début, ça devient vite rasoir en fait de devoir toujours se taper un ou deux illuminés de la SEC qui te tombent dessus parce que c'est comme ça, parce que ou d'avoir un ours qui attaque en effet comme tu disais tes coéquipiers avec une IA désastreuse, donc en fait ils se font buter une fois sur deux.
Au final, j'ai l'impression que t'aimes pas trop le jeu, quoi. JK avait l'air de dire bon, ça passe, c'est marrant parce que c'est arcade pour quelques heures, mais
Je pense qu'il a mis le doigt sur un truc qui est hyper important, c'est faut connaître le contrat d'entrée de jeu, en fait. C'est vraiment faut savoir ce à quoi tu t'attends. Moi, j'ai des amis qui adorent parce qu'ils ont toujours adoré Far Cry et ils me disent bah non, mais moi je kiffe, mais je sais que ce que je retrouve dedans. Voilà, c'est faut savoir. Tu vas avoir ces libérations d'avant-poste, ce côté des activités partout, la pêche, la chasse. Voilà.
Est-ce qu'on peut dire c'est un bon Far Cry, mais c'est pas un bon jeu ? Ou c'est un peu méchant, ou je sais pas.
Ce qui est sûr, c'est que c'est pas un mauvais jeu. Bien le souligner, voilà, c'est pas un mauvais jeu,
mais c'est pas non plus un bon jeu.
C'est pas un jeu exceptionnel, à mon sens, en tout cas. C'est un jeu qui a des forces, notamment, ces premières heures, quand t'as tendance vraiment à prendre le jeu pour ce que les développeurs ont essayé d'en faire, en tout cas, c'est-à-dire une vraie balade, à te laisser perdre un petit peu dans le Montana sans trop regarder la carte. Il y a ces premières heures qui sont vraiment très chouettes, vraiment, vraiment très chouettes, et des fois, t'essayes de le retrouver. Moi, j'essaye de me forcer en y jouant à dire, attends, vas-y. Essaye d'ignorer la carte et tout. Et puis à un moment, en fait, t'y reviens parce que le jeu est structuré comme ça et tu te remets à utiliser les voyages rapides et tu te remets à...
Ah bah, décidément, la coupure, j'en ai pas eu pendant plusieurs jours et là, il y en a eu des... Elle dure à chaque fois genre 4 secondes ou 10 secondes. Donc, il faut juste un onduleur pour tenir pendant ce temps-là. Mais bon, je les ai pas encore. Bref.
Voilà.
C'est les joies de la vie à la campagne.
Podcaster versus Wild, hein, moi je te l'ai dit. Hein.
Non, mais carrément, c'est exactement ça.
On y est là.
Mais c'est bon, je vais trouver des solutions.
Il attendait pas ça au typo.
Pardon.
En même temps, ça colle avec le côté Far Cry, ouais, avec la campagne, on est dans le Montana là.
Faut que je trouve la tour pour débloquer l'option. Ton internet fonctionne. Mais je vous jure, pendant genre 4 jours, ça a marché sans problème. Et là, tout à coup, je crois qu'il y a des travaux quelque part sur la route. Enfin,
ouais, pas de bol, moi.
Qu'est-ce qu'on disait,
non, en fait, non, ce qui est intéressant, c'est que Florian, alors Florian soulevait le fait que les gros axes de mission principale, en fait, s'insèrent assez mal dans la progression et la narration du jeu, parce que de manière complètement automatique, tu vas te faire kidnapper, ou il va y avoir une séquence scriptée, ce qui fait que, en fait, qui va faire avancer l'histoire. Mais ça s'en sert assez mal. Alors, la preuve en est, c'est que moi-même, il m'est arrivé un truc à un moment donné, je démarrais une mission vraiment anodine, même pas une mission secondaire, c'était genre attaque de convoi, un truc un peu, voilà, une toute petite mission. Et d'un coup, il s'est passé un truc, j'ai pas compris, je me suis fait attaquer de toutes parts, je me suis fait capturer, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette mission? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et là, on est suivi pendant 20 minutes une assez longue mission, qui était d'ailleurs plutôt réussie en termes de gameplay et tout, de mission notamment de siège où on doit tenir en attendant qu'un hélicoptère vienne nous sauver, etc. C'est classique, mais bien exécuté. Et voilà, et du coup, apparemment, enfin, Florian, tu disais que ça, c'était comme ça pendant tout le long du jeu, quoi.
Ouais, en fait, c'est obligatoire à intervalles réguliers, c'est-à-dire que pour chaque lieutenant, pour chacun des trois lieutenants de Joseph Seed, tu vas avoir une jauge de résistance qui est divisée en trois sections. Et donc, à chaque fois, tu as deux passages obligés, c'est-à-dire sur les deux premiers tiers de la jauge. Tu as deux passages obligés comme ça. Donc, pour John, dans ton cas, c'est une section d'assaut qui vient et qui t'endort, en fait. Et t'as pas le choix. En fait, c'est inévitable et complètement inévitable.
Mais ça arrive comment? C'est genre quand t'as suffisamment créé de problèmes pour le culte dans la région est gardée par par l'un des trois lieutenants.
C'est exactement ça. En gros, sur chaque région, t'as une jauge qui revient à peu près à 13 000 points, quelque chose comme ça. Et chaque mission ou chaque acte de résistance a une valeur en points. Et donc, tu fais monter ta jauge. Arrivé au premier tiers, tout à coup, il y a une section d'assaut. Bon, dans le cas de John, par exemple, il y a une section d'assaut qui vient te chercher. T'as pas le choix, il t'endort, mais boum, il t'emmène dans le bunker.
Ça m'a pas l'air si mal, sauf que, en fonction de ton expérience, ça peut arriver n'importe quand, quoi. Et c'est genre,
ouais, ça peut arriver n'importe quand. Ça peut faire planter des scripts, ça peut faire planter des missions. Il y a un journaliste de Rock Paper Shotgun qui a très bien expliqué ça dans un article. Ça a lieu la mission en cours.
Ça lui a quoi la mission en cours?
Ça peut faire planter des scripts, et puis surtout, ça lui a fait disparaître la mission en cours. Pardon.
Ah oui, d'accord.
Ça lui a fait complètement disparaître la mission. Elle était plus accessible. Et surtout, c'est une narration imposée, c'est-à-dire que t'as quand même un gros grand écart qui est que d'un côté t'as Far Cry qui te propose une vraie liberté d'acte. Ils te disent voilà, vous pouvez résister de la manière que vous voulez, vous pouvez faire péter des camions, vous pouvez libérer des avant-postes, vous pouvez libérer des prisonniers, machin. Mais en même temps, ils te disent oui, mais quand même, il faut que vous fassiez ça. Vous n'avez pas le choix.
D'accord.
Il faut quand même que vous le fassiez, et il n'en est pas question que vous fassiez autrement. Et puis en plus, il y a un autre problème qui est que ce mécanisme-là, la première fois, tu fais ah bon, à la limite, c'est original. Il m'endorme, c'est rigolo, c'était pas prévu, ok. Sauf que ça arrive x3, enfin x2 déjà, puisqu'il y a deux segments sur la jauge, et x3 frangins. Donc en fait, ça arrive tout au long du jeu.
À chaque fois, ils arrivent, ils t'endorment.
Alors, pour John, c'est il t'endorme. Pour, dans le cas de la sœurette Faith, c'est en fait, elle apparaît et en fait, elle te drogue. C'est des mécanismes, voilà, c'est excessivement, bon, c'est très très similaire.
Narrativement, ça tient pas trop, quoi.
Bah, narrativement, ça tient pas trop avec leurs intentions. Et puis en plus, souvent les fameuses missions, là JK, tu verras quand tu feras la deuxième mission de John, elles sont assez similaires en fait. C'est souvent ce genre de mission de siège un petit peu où tu dois encaisser des vagues d'ennemis, etc. Donc c'est de ce côté-là, c'est non seulement redondant, pas très original, et en plus t'as ce côté t'es pris par le collet, alors que pour beaucoup de joueurs.
Je suis un petit peu déçu du coup, parce que j'avais une impression relativement positive du jeu en entendant les retours à droite et à gauche, et là t'es un petit peu en train de l'enterrer, quoi. Donc
Tu sais, les retours, ouais, là je regardais par exemple on parlait tout à l'heure de la presse US, sur Polygon, c'est un jeu qui a eu 6,5 sur 10, tu vois, c'est pas une super note pour un Far Cry. Le résumé c'est que c'est un open world très agréable à jouer, mais qui est très mal écrit, quoi. Et ça rejoint un peu ce qu'on dit, quoi. Et effectivement, c'est super dommage, surtout que là, avec ce système notamment de narration qui s'insère, enfin de mission qui s'insère dans, voilà, on a l'impression qu'ils veulent un peu réinventer la roue, ce qui est pas une mauvaise démarche, mais je sais pas, Assassin's Creed Origins qui est sorti quelques mois plus tôt, était beaucoup plus efficace en termes de narration, la fois plus classique. Je veux dire, pourquoi vouloir absolument, j'aurais préféré une histoire où tu vas voir le PNJ temps pour faire avancer le scénario, comme c'est le cas. Enfin, j'aurais préféré un jeu tout simplement bien écrit plutôt que de vouloir essayer de de réinventer la narration.
D'accord. Et voilà, puis il y a quand même des pour ce qui est du concret, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont un peu balayer de la main ce qu'on essaye de dire parce qu'ils s'amusent dans l'open world. Pour ce qui est vraiment du concret, pour les gens qui apprécient vraiment le côté manette en main, il faut bien savoir qu'il y a aussi des problèmes manette en main, c'est-à-dire JK l'a survolé tout à l'heure, mais l'IA est vraiment vraiment problématique, que ce soit l'IA des ennemis ou l'IA des alliés, parce que aujourd'hui faire une IA pour un personnage qui vous suit, c'est toujours aussi problématique pour un studio de jeux vidéo. Là, donc il y a le fameux système de mercenaires. On peut engager deux compagnons, mais qui sont souvent ça marche, mais souvent c'est des plaies, quoi. Ce soit pour l'immersion ou pour le combat. Donc l'IA qui a un vrai souci. Et puis d'autres petites choses à droite à gauche, des problèmes de script, des choses comme ça. L'infiltration en effet qui fonctionne très très moyennement. Donc voilà, ça se résume pas forcément à l'écriture.
D'accord. Bah,
encore une fois, c'est pas un mauvais jeu. Il faut juste savoir à quoi s'attendre avant.
C'est bien. Les fans de Far Cry spécifiquement qui cherchent ce type de gameplay seront peut-être satisfaits, mais effectivement, ça va pas forcément chercher plus loin. Comme ce qu'on aurait pu imaginer en voyant d'une part toute la promo qui a été très bien faite, moi je trouve, avec le mode arcade, tous ces trucs-là, et puis les ventes à succès, ils ont bien fait de le sortir quand il fallait, quand à ce moment-là où c'était un petit creux, et même si les creux sont de plus en plus courts ces temps-ci.
Que le jeu se vende bien, c'est une bonne nouvelle. Hein.
Ce que je veux dire, c'est que c'est pas le Far Cry qui amène la série à un plus large public. Enfin, non. Dans les faits, oui, concrètement, puisqu'il s'est mieux vendu, mais n'a pas connu une évolution.
Ça l'amène pas au niveau supérieur.
On n'est pas. Enfin, je compare encore une fois. Assassin's Creed Origins était sans être complètement en renouveau, a amélioré énormément de choses par rapport à une formule qui se cassait vraiment la figure. On aurait pu attendre un petit peu de Far Cry et finalement,
La différence va probablement se situer sur la situation dans laquelle étaient les deux séries avant cet épisode, c'est-à-dire que Assassin's Creed avait un besoin de renouveau. Urgent, drastique, hyper important. Ils ont mis la série en stand-by pendant 2 ans pour pouvoir sortir un épisode plus ambitieux. Far Cry, le dernier épisode, c'est bien vendu. Far Cry 4, c'est bien vendu. Globalement, ils n'avaient pas un besoin.
Et puis les ambitions des séries sont pas les mêmes. Assassin's Creed, c'est un des piliers d'Ubisoft. C'est même le gros pilier d'Ubisoft. Far Cry, c'est un jeu.
C'est en train de le devenir. C'est sûr.
Ils ont remplacé, Far Cry est devenu le pilier en attendant que Assassin reprenne de sa superbe, mais c'est vrai qu'en effet les situations étaient pas du tout identiques, donc le besoin, même si on sentait que la série s'essoufflait un brin, il n'y avait pas un besoin drastique de renouveau, donc ils ont pas tranché dans le vif.
D'accord, bon bah merci bien pour ces impressions sur Far Cry, pardon JK.
Rien de plus à ajouter.
Ok. Et donc, on va continuer avec des impressions un petit peu plus rapides sur Moss, le jeu PlayStation VR. Je vais remonter un petit peu mon micro. Hop, voilà, ça va mieux aller. Sur Moss, donc, le jeu PlayStation VR qui est sorti il y a quelques mois, même pas quelques semaines, et que beaucoup de gens décrivent comme l'un des jeux incontournables de la réalité virtuelle, un petit peu le jeu qui va vous y faire croire, qui va vous convaincre que la VR, la réalité virtuelle, c'est là pour rester et ça peut fonctionner. J'ai ressorti du coup mon PlayStation VR en faisant le déménagement, je l'ai vu traîner et prendre la poussière quelque part, donc je l'ai ressorti, je l'ai mis sur ma tête, j'ai téléchargé Moss avec la connexion qui fonctionnait bien pour le coup pendant quelques minutes, et je dois avouer que je suis à moitié super convaincu. C'est-à-dire que le jeu est hyper c'est un émerveillement, ce jeu, mais il a un défaut qui fait qu'il se coupe de la moitié de l'intérêt de la réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'il se contrôle à la manette et pas avec des contrôleurs Move Controller qui simulent les mains. Donc, je l'avais dit quand j'avais commencé à tester la réalité virtuelle, la vraie magie, c'est quand on commence à voir ses mains et à manipuler l'environnement. Et là, c'est pas le cas, mais il n'empêche, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est un jeu où on accompagne une petite souris dans un monde un petit peu féerique. Je vais aller fermer la porte parce que le petit est en train de pleurer. Décidément, ça se passe bien tout ça. Non mais sérieux, hein, faites des enfants.
Ah là là.
Donc.
Voilà, ouais, enregistrer au travail, mais vu que toi ton travail c'est au même endroit que.
Ah bah oui. Oui.
La vie ton gosse. Bah
mais, ouais. Non mais tu vois, c'est le début, c'est un peu le bordel, mais on s'organise. Mais ça
oui.
Marchera bien à partir du prochain. Et donc Moss, c'est on a cette petite souris qui évolue dans un univers un petit peu féerique, comme je disais, et qui, c'est une sorte de jeu de plateforme en 3D, très très simple, ou du moins pour le moment, hein, moi j'en suis qu'à quelques, peut-être une heure et demie de jeu, le jeu est assez court, ça doit faire 4-5 heures, et ça fonctionne vraiment, on n'a pas cette manipulation avec les mains dans l'environnement, mais on a une sorte de, c'est comme un diorama à la limite, dans lequel on est immergé, et on est assis, on joue assis avec la manette, et on regarde autour de nous. Et on peut, le fait d'être en réalité virtuelle, c'est clairement, clairement un plus pour ce jeu. Ça, c'est là aussi enchanteur. On regarde autour, il y a la lune en haut, les étoiles. On voit, on regarde partout dans la forêt. On peut se pencher un petit peu pour voir des endroits qu'on pouvait pas voir. On manipule la souris avec la manette et on peut. Enfin, on manipule avec le stick et les boutons comme un platformer classique, et on peut aussi déplacer la manette pour manipuler des éléments de décor. Donc ça, c'est la base du gameplay qui fonctionne tout à fait bien. Et là où ça devient enchanteur, c'est qu'effectivement, on est au milieu de.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cet environnement qu'on peut qui nous immerge complètement, bah c'est de la réalité virtuelle normale, et on a le moment magique où on se penche vers Quill, la petite souris, donc, et elle est hyper bien animée et elle te regarde quand tu te penches vers elle, elle te suit du regard, et tu as cette impression un petit peu magique d'être dans le jeu. Et le même jeu créé en univers, enfin sans la réalité virtuelle, juste en 2D, aurait été complètement médiocre. Pas mauvais, mais médiocre. Mais là, étant donné qu'on peut regarder partout et que c'est prévu pour, ça fonctionne pas mal. Je dirais par contre que c'est pas le jeu qui va vous convaincre que la réalité virtuelle, c'est génial. C'est juste une expérience. C'est encore une expérience intéressante en réalité virtuelle. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de l'essayer.
Non, malheureusement, j'en ai entendu parler, enfin beaucoup entendu parler. J'ai un collègue qui m'en a longuement parlé. On a même écrit un truc dessus sur les numériques. Et enfin moi, ça me fait hyper envie parce que moi, je trouve que la réalité virtuelle, certes, bah c'est avant tout, on pense bien sûr à des expériences à la première personne. Mais je trouve que le fait, il y a eu d'autres jeux comme ça. Il y a Chronos qui était un jeu de lancement de l'Oculus Rift. Le fait d'être à la troisième personne et de pouvoir regarder les décors et d'avoir ce jeu d'échelle sur les décors, je trouve ça excellent. Donc c'est un jeu qui c'est quand même un jeu qui m'attire beaucoup. Donc voilà, après j'ai pas le temps de m'y mettre malheureusement.
Je dirais que mes impressions étaient peut-être que j'avais des attentes trop élevées étant donné tout ce que j'en ai lu et entendu, et du coup j'étais un petit peu déçu. Donc c'est
Bah, tu
Oui, pardon.
Tu vas quand même continuer, enfin persévérer un petit peu.
Oui, oui, je vais continuer à y jouer parce que j'ai fait vraiment l'introduction. J'ai joué une heure, comme je disais, une heure et demie. Ça se trouve, il y a des trucs encore plus sympas après. Mais mais
il
c'est
pas très long,
que...
je crois.
Ouais, non, comme je disais, il fait 4-5 heures. Mais c'est juste que c'est pas tout à coup la révélation de la réalité virtuelle. J'étais beaucoup plus impressionné, par exemple, par Batman VR, Arkham, je sais plus comment il s'appelait le jeu.
Arkham VR, je crois.
Arkham VR, c'est possible. Mais celui-là était vraiment, pour le coup, il y avait un effet waouh, notamment dû à l'utilisation des move controllers qui simulaient tes mains.
Oui, non, mais.
Et là, il y avait quelque chose de magique. Et bon, en plus, après un an passé dans le placard, le PlayStation VR, je l'ai mis à jour avec la nouvelle version de l'OS qui est encore un petit peu mieux. Il y a toujours l'écran qui se décale vers la gauche, toujours. Je sais pas pourquoi, mais bref, MOS plutôt sympa. Et puis on va avancer parce qu'avec toutes ces coupures, ça nous a fait perdre du temps. Parlons un petit peu des jeux qui vont sortir. Avant Red Dead Redemption 2, il y en a quand même une bonne petite quantité. On a notamment eu l'annonce de Spider-Man, le jeu exclusif PlayStation 4, qui va sortir le 7 septembre. C'était un petit peu une surprise, parce qu'on se disait qu'ils allaient peut-être le garder pour 2019. Pour 2019, vu que l'année est déjà quand même assez fournie pour Sony. Et en fait, ils le sortent en septembre, un petit peu avant Red Dead Redemption. On a aussi Dragon Quest qui va sortir le 4, si je ne m'abuse, Shadow of the Tomb Raider le 14, et Spyro qui sort le 21. Bon, Spyro, c'est un petit peu...
qui est une réédition, un remake, quoi.
C'est ça, voilà. Ouais. Spyro Reignited Trilogy, c'est un petit peu genre, ah, Crash Bandicoot a marché, on va sortir Spyro.
Ouais, c'est complètement ça.
Ouais. Mais donc, Shadow of the Tomb Raider, je l'attends énormément. Dragon Quest 11, possiblement aussi. Spider-Man... Donc on a une petite présentation.
Curieux plus qu'impatient pour moi, mais bon, je sais pas. C'est Insomniac qui développe, donc c'est un studio que j'aime bien. Ils font jamais des très grands jeux, donc c'est la série Ratchet & Clank notamment, Resistance. Ils avaient fait un jeu Sunset Overdrive sur Xbox One, voilà, qui sont toujours des jeux très très agréables à jouer sans être des grands jeux. Là c'est vrai que ça a l'air d'avoir une bonne tête. C'est très comics, mais plus bande dessinée dans l'esprit, l'impression que j'en ai en tout cas.
Ouais, moi j'ai eu l'impression que les déplacements étaient un petit peu trop irréalistes. Genre il court tellement vite, Spider-Man, il court sur les immeubles et tout. Ça m'a un tout petit poil refroidi. Ça veut pas dire que je pense pas que le jeu va être bon, mais bon, voilà.
Ça a l'air surtout très 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 scripté et avec des QTE.
Ça me gêne pas, moi. Mais...
Alors après, ça peut être cool. Pourquoi pas, dans un jeu Spider-Man, moi je me dis que la liberté ça peut être assez, assez chouette dans le sens où on peut voyager dans la ville et tout. Et que bon, les scripts et les QTE ça peut peut-être poser des rails un petit peu dérangeants, faut voir. En tout cas, ça a l'air, comme beaucoup de jeux Insomniac, ça a l'air hyper joli déjà. Mais pour le contenu, j'attends d'en voir un peu plus pour le moment.
On a aussi eu on commence à avoir les impressions voilées sur God of War. Et bon, je pense que d'ici quelques jours, les premières reviews vont arriver. Et comme je l'ai lu ici et là, c'est tout à fait vrai. Ah oui, ça va pas tarder très bientôt.
Ah non, je dis rien. Non, non. Je connais même pas le NDA en plus, mais nous, on l'a pas encore reçu. Hein.
Très bien.
Parce qu'il sort quoi? Fin avril. Enfin, il sort donc dans deux semaines en général.
Non, mais il sort dans 10 jours. Et généralement, quand ils donnent les copies suffisamment à l'avance pour faire les reviews, et visiblement, ils les ont depuis... Les reviewers les ont depuis au moins une semaine. C'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'ils ont confiance en leur jeu et que le jeu est a priori relativement bon. Et tous les échos que j'en ai eu, les petits chuchotements à droite à gauche, c'est que on va pas être déçu. Donc... À voir, moi je l'ai précommandé. J'avais peu de doutes que je l'achète, mais là je l'ai carrément précommandé pour l'avoir sur la console tout de suite. En plus, je suis hyper client et j'en ai déjà parlé, on en reparlera, mais voilà, ça sent bon pour God of War, on va dire.
Ouais, je suis assez confiant aussi.
Moi, de ce que j'en ai vu, en tout cas, ça part plutôt bien. Moi, j'avais fait la preview il y a trois semaines peut-être. Ça part très bien. Ils ont pris le risque de changer beaucoup de choses et de s'inspirer énormément du travail de Naughty Dog. C'est vraiment très très marqué dans la façon, notamment dans la relation de Kratos avec son fils. Donc voilà, beaucoup de cinématiques, beaucoup plus de mise en scène, et une caméra à l'épaule qui change drastiquement la donne. Donc ça, c'est en tout cas moi les trois premières heures que j'ai fait, ça partait très bien.
Bon, bah à voir alors si ça se confirme sur le reste du jeu, ça a l'air d'être plutôt bien parti. Sea of Thieves, on en parlait au dernier épisode, et il y a finalement un joueur qui a réussi à devenir un Pirate Legend, mais de la manière la plus triste qui soit. Si vous avez écouté le dernier, vous vous souviendrez que c'est hyper difficile, enfin c'est hyper fastidieux plutôt, d'atteindre ce statut, en fait d'atteindre le endgame. Et en fait c'est un streamer, sans rentrer dans la controverse genre est-ce que c'est bien ou pas bien, c'est un streamer qui l'a fait en se faisant aider de sa communauté, qui lui ramenait les trésors et lui allait les rendre, et donc il les enchaînait, et il a réussi à devenir une légende pirate finalement assez vite, mais parce que il l'a fait d'une manière, enfin c'était un petit peu le travail à la chaîne, ce qui est pas, il disait avec justesse je pense, bah moi je voulais juste voir ce qui se passait, on s'amusait avec ma communauté, c'est pas de ma faute, enfin il y a plein de gens qui lui sont tombés dessus en fait, mais oui c'est triste, mais c'est plus triste pour le jeu que vraiment
l'accuser lui. Je suis pas sûr que ça serve vraiment le jeu là pour le coup. Ouais. Surtout qu'apparemment le mec en guise de récompense, il a eu un truc tout minable, je sais plus ce que c'était. Enfin ça montre aussi que malheureusement malgré les, enfin bon bref, j'en avais parlé au dernier numéro, mais malgré les qualités artistiques qu'il a, malheureusement c'est vraiment un jeu qui est vraiment beaucoup trop vide aujourd'hui pour être intéressant. Quoi.
Ouais. Oui, vas-y.
Non, oui, je confirmais ce que disait JK. Apparemment, c'est un jeu qui sonne très creux en dépit des super impressions des super sensations qu'il peut donner.
Tout à fait, ouais.
Ça manque cruellement de contenu, d'après ce que j'ai entendu.
Ah bah, c'est exactement tout ce que disent tous les joueurs, et d'ailleurs ils s'en sont un petit peu détournés, et il est possible de le remplir à terme. Moi je pense pas que ça va arriver pour tout un tas de raisons, mais peut-être. Regardez No Man's Sky qui vient d'annoncer son update next d'une manière assez solennelle. C'est genre voilà notre prochain update No Man's Sky, alors jeu qui est sorti il y a maintenant presque 2 ans, 1 an et demi, qui était plein de promesses pendant les previews et dont énormément de gens se sont un petit peu monté la tête sur le jeu, et au final il était quand même assez vide. Il avait plus de choses que Sea of Thieves, mais quand même pas énormément. Il s'est étoffé au fil des mois. Et ce studio qui avait été un petit peu dépassé par le succès ou la hype de son jeu revient maintenant avec l'update Next qu'ils vont annoncer très bientôt, dont ils vont détailler plutôt très bientôt, et l'arrivée du jeu sur Xbox One, donc l'exclusivité temporaire sur PlayStation est terminée. Du coup, ça veut dire, enfin j'imagine que ça fera peut-être 2 ans, peut-être qu'il va sortir cet été sur Xbox One, on verra la date bientôt, mais du coup, c'est limite sur Xbox One, vous pourrez l'acheter fini, quoi. Donc, si ça vous intéresse, à voir ce qui sera proposé dans cet update Next, on sait pas du tout ce que ça sera, mais bon, voilà, c'est pour noter que No Man's Sky n'est pas totalement mort encore, il continue à se développer, il a été quand même beaucoup étoffé depuis la sortie.
Il y a eu pas mal de mises à jour derrière la possibilité de se construire un foyer, etc. Enfin, ils ont essayé en tout cas de corriger le tir.
Ouais. C'est clair, on peut pas leur reprocher ça, hein, parce que ils ont écouté les retours. Je pense que de ce que j'en ai vu, le jeu d'aujourd'hui c'est presque pas le même jeu, quoi. Tu passes d'un truc ultra impressionnant au niveau de la technologie, mais complètement vide, à un vrai jeu avec un fil rouge, d'une histoire apparemment, enfin même beaucoup d'améliorations de l'interface.
Et ça, c'est l'update Next à venir.
Oui, donc, en plus voilà.
Ouais, voilà. Ouais.
Moi, je pense que je vais rejeter un œil là avec cette nouvelle mise à jour, parce que voilà, je n'avais pas été très convaincu par le premier, alors que j'adorais le concept de base, quoi. Le concept était vraiment génial, mais voilà, quoi.
Bon. En parlant de mise à jour de jeu, il y a Middle Earth Shadow of War qui va supprimer les microtransactions entièrement du jeu. Ils ont annoncé ça il y a pas longtemps. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. En même temps, moi, je pense que si les microtransactions avaient fonctionné, si des gens achetaient les loot box et les pour avoir des orques, eh ben ils les auraient laissés si ça fonctionnait. Moi je pense pas qu'ils les auraient enlevés. Ils ont dit oh ça nous détourne de du gameplay du machin, donc on va l'enlever pour avoir une expérience plus clean. Oui, tout à fait, mais en même temps si ça marchait, je pense pas qu'ils les vireraient. Là et en même temps ça vient confirmer un petit peu, je crois, c'est peut-être mon interprétation, mais ce que je disais du jeu depuis sa sortie, c'est que pour tout le scandale que ça a fait, à la fois sur celui-là et sur Destiny 2, évidemment Battlefront 2 c'était un autre problème, mais pour parler spécifiquement de Middle-Earth, de Shadow of War, les lootbox étaient complètement inutiles. On pouvait complètement faire le jeu sans jamais en acheter, et je pense que c'est ce que la plupart des gens ont fait. Là où ça posait problème, c'était pendant le endgame, c'est-à-dire l'acte 4, le ouais. Shadow Wars, qui était... En fait, un mode qui était parti d'une bonne intention de faire un mode de jeu infini une fois qu'on avait fini le jeu, mais qui était simplement mal foutu. Et le problème n'était pas vraiment le problème des loot box, c'était que le jeu, enfin ce mode était mal foutu. Et là, ce qu'ils disent, c'est qu'ils vont non seulement enlever les loot box, donc très bien, c'est une bonne nouvelle, mais en plus, ils vont modifier le mode de jeu Shadow War et agrémenter le gameplay, le modifier un petit peu, l'adapter pour que ça soit plus agréable à jouer. Et du coup, pardon, du coup, moi, je vais faire comme JK avec No Man's Sky. Une fois que ça sera sorti, c'est pas encore sorti, mais une fois que ça sera sorti, je pense que je vais me repencher sur ce jeu parce que c'est vraiment un jeu que j'ai adoré. Et le dernier mode était décevant, donc s'il est un petit peu corrigé, je vais peut-être y rejeter un coup d'œil. Florian, je t'entendais acquiescer.
Ouais, bah parce que c'était un petit peu inutile, comme tu le disais, comme intégration. Je comprends pas que certains jeux comme ça pleinement solo. Alors le multi c'est encore plus dangereux, mais enfin là c'était vraiment complètement inutile, c'était vraiment mal fichu et en effet le fait qu'il y a un rétropédalage, au-delà du fait que ça leur, comme tu dis, que ça leur a apporté peut-être assez peu en termes financiers, c'est aussi quand même mine de rien les échos de la shitstorm de l'année de cet automne qui ont taillé des très mauvaises réputations à ces jeux qui utilisaient des loot box.
C'est possible. Moi, je pense qu'ils vont sortir. C'est pour relancer les ventes pour une Game of the Year Edition, tu vois.
Oui, probablement aussi. Mais Battlefront vient. Je me trompe pas en disant que Battlefront a retiré définitivement aussi ses microtransactions.
Alors,
les
microtransactions, elles sont reclassées en cosmétiques uniquement, en fait.
Oui, voilà. Donc, c'est quand même une rétractation un peu globale de tout le monde sur ce terrain-là.
C'est sûr que c'est une des conséquences du scandale qu'on a largement couvert et que tout le monde a largement couvert en fin d'année dernière. Moi, je crois que sur Shadow of War spécifiquement, je pense que c'est pas dû à ça. Je me trompe peut-être, hein, mais moi, je crois simplement que ça leur rapportait pas d'argent et que ça servait à rien. Et du coup, pour le relancer un petit peu dans une version, peut-être au début de l'été, une nouvelle version complète, ils se disent on va retravailler. Je pense que l'intention était de retravailler le mode Shadow Wars. Et du coup, les lootbox, ils se sont rendus compte que peut-être qu'ils les auraient laissés, j'en sais rien. Peut-être qu'ils les auraient laissés s'il n'y avait pas eu le scandale. Moi, je pense que c'est pas complètement lié à ça, peut-être que ça a influencé.
Non, c'est pas tout noir, tout blanc, mais je pense que, comme sur Star Wars...
Ça fait plus propre, quoi, ouais.
Ouais, et il faut tenir compte que, comme sur Star Wars, c'est des licences qui pèsent, qui ont un nom, et pour qui les ayant droit vont peut-être venir frapper à la porte et dire « Oh, je veux pas que ma licence, elle soit attachée à ce genre
ouais,
de... »
Ouais, mais là, le jeu est déjà sorti, tu vois, il est sorti, personne n'en aurait plus parlé à un moment en disant « Shadow War, c'était le... » Enfin, tu vois, c'était...
Ça met peut-être du temps, limite, ça... pas, c'est ça. Parce que ce qui est sûr, tu vois, en tout cas, c'est que ça a pesé pour Star Wars, par exemple, que Disney entende parler de ce genre de problème-là. Je me dis peut-être que les ayants droit de Tolkien, dont je me rappelle plus le nom de la boîte, mais ça a un nom pour tout ce qui est Seigneur des Anneaux, etc., a peut-être effectué le même genre de discussion aussi pour leur dire, bon, les gars, c'était cool, mais là, nous, non, quoi.
On peut pas
être attaché à ce genre. Je pense que t'as raison dans le sens où c'est pas tout noir ou tout blanc. Je pense qu'il y a plein de causes, en effet, pour justifier la rétractation.
Le retrait, ouais. Bon, en tout cas, le jeu que moi j'ai adoré et que je recommandais chaudement sera encore plus clean, donc il sera encore plus facile à recommander si une version, enfin, il sera de toute façon facile à recommander quand quand les microtransactions seront supprimées, mais s'il y a une nouvelle version qui arrive, ça relancera le truc et moi je serai heureux de vous proposer de l'acheter. Ghost Recon Wildlands va voir une deuxième saison de contenu gratuit. C'est une confirmation du suivi que fait Ubisoft de ces jeux. Et il va y avoir des nouveaux épisodes pour Final Fantasy XV pendant 2019. Il y a 4 nouveaux épisodes, donc du contenu additionnel, hein, là encore. Ah oui, et pardon, je voulais parler aussi pour Ghost Recon Wildlands du fait qu'il y aura peut-être... Enfin, il y a une mission avec Sam Fisher qui va arriver, donc Splinter Cell, ce qui laisse penser que peut-être un nouveau jeu Splinter Cell annoncé à l'E3, ouais. et on n'arrive pas à avoir des leaks, c'est hyper frustrant, il y a des rumeurs depuis longtemps, mais...
Ce serait pas étonnant, mais après c'est une licence qui a été mise de côté par Ubisoft depuis quand même longtemps. Là, le dernier épisode, ça date au moins des 7-8 ans, je pense.
Ça date, ouais.
Et pourtant, qui a un vrai potentiel. Enfin, moi, c'est une des rares licences slash Tom Clancy-esque que j'aimais vraiment bien. Donc, je suis, j'aimerais bien qu'il y ait un petit Splinter Cell. Oui. Là, ça
et c'est
cool.
Pour ça que les rumeurs vont bon train. Ouais. Et du coup, le fait qu'ils mettent un Sam Fisher dans Ghost Recon Wildlands...
Après, ça a du sens, hein, ce genre d'univers où tu t'attends très bien à voir un Sam Fisher débarquer.
Oui, et puis c'est Tom Clancy. Évidemment,
dans Les Lapins Crétins, ça aurait été un peu plus bizarre, quoi. Je crois que je me demande s'il y a pas... Si, je crois qu'il y a un costume de Lapin Crétin déguisé en Sam Fisher.
Ouais. C'est
à peu près sûr d'avoir vu ça traîner quelque part.
Ouais, c'est sûr.
Fortnite sur mobile, est-ce que vous avez... Complètement, je vais blower votre mind. Fortnite sur mobile fait énormément d'argent.
Vous vous rendez compte?
Oh, c'est dingue.
Ce qui est fou, c'est que Fortnite est en train de prendre le dessus sur PUBG là.
Là aussi, on en parlait en termes de chiffres. Les épisodes précédents,
Vous en parliez avant. C'est dingue. Et moi, ça m'intéresse pas. Donc, je t'avoue, j'ai pas vraiment poussé le vice jusqu'à l'installer, quoi.
Bah moi je l'ai installé sur la PS4 là, je vais certainement pas y jouer, mais je me suis dit bon, je vais l'installer parce qu'il était, il y avait genre un pack de trucs spéciaux pour PlayStation Plus, je sais pas quoi, je me suis dit bon, je l'installe, je vais jouer deux fois.
Allons-y quoi.
Mais et puis tu vois, c'est question de culture, faut savoir, mais ça fait énormément d'argent et il était seulement en période d'invitation jusqu'à il y a quelques jours quoi, une semaine. Et là ils disent c'est Sensor Tower, hein, un cabinet d'analyse qui a calculé que Fortnite a fait 15 millions en un mois, 15 millions de dollars. Donc ça fait quoi, 500 000 dollars par jour. Et il y avait il compte dans cette période le moment où il était hyper difficile d'avoir accès au jeu. Donc je pense que Fortnite, et c'est des loot box et c'est uniquement cosmétique si je ne m'abuse sur Fortnite. Donc
oui, il me semble aussi, ouais.
Donc lootbox, c'est pour ça que je reste relativement, comment dire, prudent sur l'idée. Ah voilà, lootbox, on a gagné. Adieu les lootbox, vous allez machin. Moi je crois que
si c'est du cosmétique, hein, moi j'ai aucun problème avec ça. Hein.
Après, il y a des gens qui ont des problèmes avec ça aussi, hein, mais.
Bah, ils font ce qu'ils veulent, les gens. Si les gens veulent, si tu veux acheter ton chapeau de Gandalf 50 centimes, je dis n'importe quoi,
ça existe
déjà depuis longtemps,
hein.
Chez Valve.
Je crois que très peu de gens ont des problèmes avec l'achat de trucs spécifiques. Enfin, il y en a bien sûr, il y a des gens qui disent
loot box.
Les trucs cosmétiques dans les loot box, il y a des gens à qui ça plaît pas.
Mais on est quand même sur un modèle économique différent. Fortnite est gratuit.
C'est sûr.
Pas la même chose que quand tu payes un. Le problème vient du fait que tu payes un jeu plein pot et que tu n'aies pas accès à tous ces assets de manière.
Il y a des gens à qui ça pose beaucoup de problèmes, y compris les loot box dans les jeux gratuits, peut-être même plus dans les jeux gratuits. Les trucs où c'est le plus le plus discutable, je dirais, c'est généralement au contraire les jeux gratuits, les jeux mobiles gratuits, où ce genre de pratiques sont hyper communes.
Commun, mais le modèle économique est cohérent. Je veux dire, ils font pas payer. Il y a des micro-paiements qui sont différents.
Je pourrais te présenter des gens qui sont pas du tout de l'avis que c'est cohérent. Hein. Il y a des gens qui sont très très énervés contre ce genre de trucs. Mais...
Ouais, sans dire que c'est cohérent, je veux dire, il y a un espèce de contrat qui dit que quand malheureusement, souvent dans les jeux gratuits, tu vas payer de tous les côtés, que ce soit à travers les loot box ou autre chose, hein, globalement. Enfin, moi, à mon sens, je pense que le problème vient plus du fait de te faire payer quelque chose à la base et de te refaire payer ensuite d'une autre manière. C'est,
ah, je pourrais, voilà, je pourrais te... Mais... Je pourrais te donner l'exemple du bon élève dans la classe. On m'a reproché de dire que c'est... Je prends toujours cet exemple alors que c'est le bon élève. Overwatch, qui est payant. Bon, pas hyper cher, c'est 40 ouais. euros, mais quand même. Et qui fait des loot box avec des trucs cosmétiques uniquement. Ouais. Ça fait quoi? Plus de 2 ans qu'il est sorti ou 2 ans qu'il est sorti. On a eu des cartes, des persos, des machins. S'il n'y avait pas de moyen de monétiser ensuite avec des loot box, même pour un jeu payant, bah, on n'aurait pas eu tout ça. Donc... Bon, bref.
Ouais, mais ça reste cosmétique, ça reste.
Ah, ouais, bah oui, mais il y a des gens à qui ça pose des problèmes, encore une fois.
Ah, non, mais je comprends. En fait, je comprends l'argument. L'argument. Et c'est des jeux que je t'avoue qui me touchent pas. Donc, bon, voilà, malheureusement.
Ouais. Bon, on pourrait en parler longtemps, mais on ne va pas le faire. On va plutôt parler de Ikaruga. C'est un jeu que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, peut-être, ou peut-être en ayant entendu parler depuis qu'ils sont tout petits. Ikaruga, c'est un shoot'em up légendaire qui était sorti sur Dreamcast à l'époque, qui va peut-être arriver sur PlayStation 4. Et je crois qu'il est sur le Xbox Live, je sais plus. Enfin bref, c'est un jeu qui est un petit peu éternel.
Il était sorti sur Xbox 360, il me semble, sur le Xbox Live. Alors, est-ce qu'il est toujours dispo sur Xbox One? J'avoue, je sais plus trop, quoi.
Et c'est un jeu, en fait, où on peut... C'est un bullet hell, hein, donc il y a des boules partout, il faut les éviter. Et on peut passer du blanc au noir. Ouais, mais c'est pas juste un shoot'em up, c'est un bullet hell qui est un type de shoot'em up particulier. Et on peut passer du blanc au noir. Et quand on est blanc, on évite... On peut pas se faire... se prendre des dégâts d'une certaine couleur, et noir c'est l'inverse, je sais plus si c'est la couleur qui correspond ou pas. Bref, c'est un jeu super légendaire, il va peut-être arriver sur PlayStation 4. On passe rapidement sur les dernières news. Les Steam Machines ont disparu du site de Valve, mais Valve dit non, elles sont pas mortes, ça va revenir, SteamOS c'est super bien, on est complètement à fond dessus, SteamOS c'est génial.
Normal un petit peu, mais non, je crois qu'ils avaient dit qu'ils avaient fait le ménage et qu'ils avaient décidé de plus mettre en avant les choses qui étaient pas qui rapportaient pas autant que ce qu'ils voulaient, quoi. Voilà. Et puis même ils l'ont dit clairement, ils ont dit oui, on reconnaît que les Steam Machines n'ont pas atteint les objectifs qu'on s'était fixés,
ouais,
sans déconner.
Ils disent qu'ils sont toujours en train de développer SteamOS, tu vois. Et moi, je t'avoue que et ils disent ouais, on veut quand même amener les jeux sur Linux, machin. Oui, peut-être. Mais moi, je trouve que c'est encore... Enfin bon, bref, on verra. Peut-être qu'ils vont nous annoncer un truc dans quelques mois qui va être incroyable. Je ne sais pas si vous vous souvenez des soldes incroyables qu'ils avaient fait sur les Steam Link. Ils les vendaient à 5 euros.
Enfin, je ne sais plus,
Et donc, peut-être que, de deux choses l'une, soit ils faisaient le ménage parce qu'ils vont arrêter toutes ces merdes. Je schématise, enfin j'exagère pour le principe, mais parce qu'ils vont arrêter toutes ces merdes. Moi, j'ai un Steam Link, hein, c'est très bien. C'est juste, ils vont se concentrer sur les jeux. Ou alors, ils ont des trucs à annoncer et ils nettoient avant de renouveler les gammes. C'est possible aussi.
Non, mais j'y crois pas trop. Je pense que le hardware, au mieux, ils font de la réalité virtuelle avec des contrôleurs, etc. Ils vont développer un peu ça. Mais le hardware, ils ont, enfin, les consoles, enfin, ces pseudo-consoles, j'y crois vraiment pas, quoi. Valve, ça fait partie de ces boîtes. Tu te demandes concrètement où ils vont, qu'est-ce qu'ils font, quoi. Alors certes, ils se font des milliards avec Steam, il y a aucun souci, mais ils font pas de jeux, enfin ils font plus de jeux depuis, ça fait quand même un bon moment qu'ils font pas de jeux.
Des jeux maintenant,
ça, ouais, voilà, mais on attend de voir quelque chose. Le hardware, ils sont en train de gentiment, oui, Artifact, ouais. Le hardware, ils sont en train de gentiment l'arrêter. Voilà, enfin, c'est dommage. Enfin, bon, après, je m'en fiche, mais quand même, malgré tout, Valve, c'était une boîte qui me faisait rêver quand j'avais 18-20 ans et qu'il y avait Half-Life et tout ça, quoi. Là, c'est plus le cas, quoi. C'est dommage.
Bon, mais voilà. Des trucs qui font pas rêver. Des trucs qui font pas rêver. Il y a aussi comment ça s'appelle, Breakaway, le jeu de Amazon. Vous vous souvenez, le jeu où ils avaient coché toutes les cases de est-ce que ça fait du jeu un bon e-sport. Ils avaient tout coché. Ouais. J'y avais joué un petit peu.
J'ai découvert son existence quand j'ai vu la news qu'il est comme quoi il était annulé. Donc ça.
C'est vrai que bon, il a pas non plus été un succès phénoménal et ils arrêtent. Donc voilà, ça règle la question. Et Lawbreakers de Bosky Productions est aussi arrêté. Bosky se remet, c'est le, vous savez, le studio de Cliff Bleszinski.
Cliffy B, ouais.
Bon, ils vont se mettre sur autre chose. C'est bien qu'ils abandonnent pas. C'est peut-être pas mal parce que ça aurait fait un petit peu mal, mais voilà. Ils arrêtent Lawbreakers aussi. Moi, je pense que c'est sans doute une bonne chose de pas trop insister. Clairement, ils ont raté le coche et ça serait dommage d'avoir Cliffy B s'arrêter là. Il est sorti de sa retraite pour créer Bosky Productions. Donc, moi, j'attends toujours des grandes choses de Cliffy B.
Ouais, tu dis ça sans au premier degré ou t'es ironique?
Ah non, moi je suis non, je bravo. Trouve que
ah ouais
Cliffy B, il a quand même c'est quand même le Gears of War quoi.
Alors, oui, non, mais c'est vrai, c'est Unreal aussi, c'est Jazz Jackrabbit, ne l'oublions pas. Aussi voilà, c'est plus vieux mais oui, d'accord. Voilà.
Après, il y a une vraie question d'adéquation à l'époque. Peut-être qu'il a perdu un petit peu le mojo, ce garçon aussi.
C'est
hein,
possible. C'est possible. Disons que je lui laisse encore une chance, on va dire.
D'après ce qu'on m'a dit, Lawbreakers n'était pas un mauvais jeu, hein, mais pas assez original ni assez, assez percutant pour se faire une place. Quoi.
Ouais, on parlait d'Overwatch. Il est tombé au mauvais moment, quoi. Il est tombé.
Ça, oui, voilà. Bah, d'ailleurs, ils ont beaucoup pleurniché à ce niveau-là. Ça a fait beaucoup sourire parce qu'ils étaient là. Ouais, mais non, mais les autres, ils nous prennent notre public et machin. Bah ouais, mais les gars, attendez, vous arrivez dans un secteur qui est hyper concurrentiel. Enfin,
c'est
voilà,
surtout
quoi,
que tout le monde a eu l'idée au même moment, quoi. C'était dans l'air du temps. Ah, c'était oui, voilà, ce qui arrivait avec les MOBA appliqués aux FPS, mode, c'était normal. Les gens avaient envie de revenir un petit peu vers les FPS qui étaient quand même passés de mode dans le grand public. Et du coup, il y a eu, FPS, on va inclure les TPS dans l'eau de ce style-là, mais entre
ouais,
Paladins, comment il s'appelle de Gearbox.
Battleborn.
Voilà, Battleborn.
Souvenez-vous de Battlecry de Bethesda, le jeu qui a été repoussé au calendrier. Avec
Antonov à la direction artistique.
Avec Antonov, exactement. Il y a eu même Quake Champion, on en a entendu parler.
Je crois que après. Hein. Il continue à faire sa petite vie, Quake Champion. Mais disons que. C'était un petit peu pas de peau, Lawbreakers. Je crois effectivement qu'il avait un petit peu trop un pied dans le passé aussi. C'était genre, on fait le truc avec l'héritage de ce qu'on avait à l'époque de Unreal et tout ça. Ce qui n'était pas forcément une mauvaise chose, mais il a pas su assez moderniser le truc pour plaire au public peut-être un petit peu plus large d'aujourd'hui. Et en plus de ça, le télescopage de tous ces jeux qui sont sortis en même temps, bon bah voilà, malheureusement... Lawbreakers n'a pas trouvé son public, comme on dit pudiquement dans l'industrie, et ils vont faire d'autres projets. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ils ne virent pas tout le monde, ils continuent à travailler dessus, sur des trucs. Et puis enfin, d'excellents jeux pour le PlayStation Plus et le Xbox Live. C'est toujours notable, j'essaye de rappeler aux gens de télécharger leurs jeux. Mad Max, enfin excellent, c'est peut-être un petit peu exagéré. Mad Max, qui est un jeu sympa sur PlayStation Plus, et Trackmania, qui est légendaire. Et moi, je vais justement pouvoir l'essayer, parce qu'en fait, j'ai jamais joué à Trackmania. Donc ça, c'est pour PlayStation Plus. Et sur Xbox Live, les jeux du mois, c'est Assassin's Creed Syndicate, The Witness. Oula. Et le mois prochain, il y a Dead Space 2. Et bon, après... d'autres trucs un petit peu moins notables, mais sur Xbox 360, pardon, donc pas sur Xbox.
Syndicate, c'est quand même un petit peu le moment où Assassin a touché le fond.
Ouais, c'est chaud. c'était pas l'épisode le plus. Limite, ils auraient dû prendre celui d'avant, celui qui se passait à Paris là.
Unity.
Limite, ouais, Unity, à la limite quoi, tu vois.
Tout le monde a dit que Unity était pas bon, et moi je l'ai beaucoup aimé, donc beaucoup aimé. J'exagère. J'ai passé de bons moments, donc j'étais curieux sur Syndicate. Ouais, sur Unity, moi j'ai passé de très bons moments. Hein. Je l'ai fini, c'est le seul Assassin's Creed que j'ai fini entièrement. Donc...
Ah bah alors, tu vois, quoi.
Parce que c'est la France et que tu l'as
fait. Non mais c'était ça, marcher dans Paris, tout ça, c'était incroyable.
Ah mais je pense qu'il y a un vrai côté comme ça pour nous. Hein.
Bien sûr, oui.
Mais ouais, Syndicate, c'était le moment où ils avaient réussi enfin à peu près leur écriture avec des personnages qui retrouvaient enfin un peu de charisme, le duo des deux jumeaux, là, machin, avec un côté un petit peu Sherlock Holmes de Guy Ritchie, un petit peu ce côté 19e, un peu badass, machin et tout. Et c'est le moment où, paradoxalement, ils ont complètement touché le fond en termes de gameplay.
D'accord.
Où ils arrivaient vraiment plus à rien. C'est d'ailleurs suite à Syndicate qu'ils ont mis en stand-by, je crois.
Oui, mais ça avait été prévu depuis un moment. Hein. C'est pas genre. Ils ont sorti Syndicate, ils ont dit. Oh,
je pense que Syndicate aurait fait des très bons chiffres de vente, ils auraient pas mis en stand-by.
Peut-être, c'est possible. T'as raison.
Je pense.
Bon, bah écoutez, on arrive donc au bout de cet épisode. On pourrait vous parler, hein, la prochaine extension de WoW a une date de sortie. C'est quoi, mi-août 14, je crois, 14 août. Donc moi, je suis déjà excité à l'idée, mais bon, je suis un petit peu biaisé sur le sujet. quoi d'autre? Bon, allez, on va s'arrêter là et on va conclure cet épisode qui a été un petit peu perturbé. J'espère que ça se passera mieux pour les prochains. Oui, je sais que ça se passera mieux pour les prochains. Maintenant, je sais comment il faut faire. Merci d'avoir été avec moi, JK et Florian, pour essuyer les plâtres de ce nouveau studio.
ouais, t'inquiète pas, hein, c'est la peinture est encore fraîche, mais...
Oui, complètement.
Ça va du direct.
Est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver sur l'Internet pour les auditeurs, pour que les auditeurs puissent vous suivre en direct à chaque instant? Commençons par JK.
Alors moi sur les numériques, pardon, pour des sujets informatique, high tech, un peu de jeux vidéo, sur ZUSD, toujours un podcast mensuel de jeux vidéo sur PC. Le prochain numéro qui devrait être en ligne d'ici une semaine, on y croit, on l'enregistrait vendredi. On a invité Patrick Helio, un garçon que j'aime beaucoup, et on a parlé pas mal de Ready Player One. On a fait un gros dossier débat sur Ready Player One. Donc voilà.
J'ai hâte de vous entendre.
Ouais, bah tu vas voir. Enfin bref, non, je dis pas plus. voilà, et puis Twitter @jcaloré.
Comme toujours, Florian, où es-tu toi?
Alors pour ce qui est du 2.0, un petit peu chez les amis de Gamekult, où je m'occupe un petit peu d'actualité. Quelquefois, je fais quelques apparitions dans l'émission, et puis vous pourrez me voir occasionnellement sur des tests ou des previews. Après, malheureusement, je suis un homme de l'ancien temps et du papier, donc chez JV, en termes de presse papier.
Et puis,
pour s'il y a, voilà, JV le mag, exactement. Et puis, s'il y a des amateurs de ballons ronds qui nous écoutent, bah voilà, sur le site hors-jeu.net aussi, pour parler notamment d'Arsenal et de plein d'autres choses. Et puis Twitter, comme a dit JK. Le perfil d'Albion.
Oui, j'ai mis un moment en lisant le tweet. C'est un jeu de mots digne des meilleurs exemples qu'on puisse trouver sur le net.
Ouais, merci. Écoute, je le prends comme un compliment.
Bon, bah merci à tous les deux. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, où je vais peut-être poster des photos de mon nouvel environnement. Vous pourrez voir ça si ça vous intéresse. Et bien sûr, frenchspin.fr, où vous pouvez venir commenter les notes de l'émission. Vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé de ce qu'on a dit, si vous êtes d'accord ou pas, et ce que vous avez apprécié dans les coupures de cet épisode. Et vous pouvez aussi trouver le rendez-vous tech, où on parle de tech toutes les semaines désormais. Donc vous pouvez avoir un podcast hyper sympa où vous pouvez avoir toute l'actu de la tech en parallèle de toute l'actu du jeu vidéo que vous avez avec ce podcast-ci. Et d'ailleurs, si vous voulez que nous filer un petit coup de main, bah vous pouvez dire à vos amis, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, vous pouvez leur dire « Hey, tu devrais écouter le rendez-vous jeu, parce que le rendez-vous jeu, c'est super bien !» Vous devriez le dire comme ça, je suis sûr qu'ils vont être convaincus. plus sérieux. Effectivement, si vous voulez nous filer un coup de main de cette manière, ça serait forcément énormément apprécié. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode. Ciao à tous!
Salut!
Salut!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.